Vous écoutez, on lit pour vous.
Des comités de logement en état d'alerte. Un texte d'Alice Jacotin, paru le 24 juin 2025 sur Ici Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Hausse de loyer, itinérance invisible et discrimination. Dans la foulée du grand déménagement du 1er juillet, des organismes de logement saisissent l'occasion pour dénoncer la réalité des locataires de l'Est du Québec. La réalité du déménagement estival existe encore dans le Bas-Saint-Laurent. Selon Thomas Savy, intervenant en défense de droit au comité logement Bas-Saint-Laurent. Cependant, les locataires quittent leur logement à cause de loyers déraisonnables, précise-t-il. Une augmentation inacceptable. La hausse des loyers de 5,9 autorisée par le tribunal administratif du logement est un record que dénonce aussi Michel Savard, membre du comité de défense des droits des locataires de la Côte-Nord. C'est totalement inacceptable, déplore-t-il en entrevue à l'émission Bonjour la Côte. Selon M. Savard, l'augmentation des loyers n'est pas cohérente avec celle du salaire minimum de 35 cents de l'heure ou encore de l'inflation à 1,7. Un paquet de familles vont se trouver sans avoir les moyens de conserver leur logement. Mais elles n'auront pas le choix. Les taux d'inoccupation de 1,3 à Baie-Comeau et de 0,5 à Sept-Îles sont préoccupants, ajoute-t-il. L'incapacité à payer son loyer est la première cause d'itinérance, avant les troubles de santé mentale ou de dépendance, affirme Thomas Savy, du Bas-Saint-Laurent, en s'appuyant sur le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance. Non, on ne réussira pas à loger tout le monde, s'inquiète-t-il. Sur les 128 ménages suivis par le service d'aide à la recherche de logement de Rimouski-Neigette, une quinzaine n'ont pas de solution d'hébergement lorsque le bail de juin arrivera à terme. Une autre réalité gaspésienne. Pour Camille Tremblay-Fournier, membre du comité autonome d'accessibilité logement de la côte de Gaspé, la réalité est différente en Gaspésie. La pénurie de logements suit une dynamique estivale avec un manque de logements en été et lors de la rentrée scolaire. On se rend compte qu'il y a beaucoup de hausses de loyers frauduleuses, témoigne-t-elle. Son comité offre du soutien administratif aux locataires dans le contexte du fort taux d'analphabétisme qui sévit en Gaspésie. Camille Tremblay-Fournier déplore également la discrimination de certains propriétaires vis-à-vis des locataires en raison des conditions de plus en plus restrictives dans les baux, comme l'interdiction d'avoir des colocataires ou des animaux. Il y a tellement peu de logements que les propriétaires vont avoir tendance à discriminer les locataires, dénonce Camille Tremblay-Fournier sur les ondes de Bonjour la Côte. Face à ces problèmes, le comité autonome d'accessibilité logement de la côte de Gaspé mise sur la revalorisation des logements collectifs, sociaux et adaptés, conclut-elle. C'était des comités de logement en état d'alerte à l'approche du 1er juillet. Un texte d'Alice Jacotin, paru le 24 juin 2025 sur Ici Gaspésie, Île-de-la-Madeleine.
Mom, Pops et Billy Bop. Un texte de Marie-Hélène Poitras paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. À une époque, je recherchais les lectures qui allaient me faire vivre des expériences renversantes, limite traumatiques. J'ai été fan d'Hubert Aquin et d'Emmanuel Carrère, tout particulièrement de L'Adversaire, un roman dont je ne me suis pas tout à fait remise. J'aimais que la littérature soit une zone où l'amoralité pouvait être explorée, que lire me confronte dans mes valeurs les plus enracinées. Une lecture marquante pour moi, dans mon top 3, est L'écriture ou la vie, de Georges Semprun, sur le retour d'un homme à la vie après avoir séjourné dans un camp de concentration et qui cherche comment raconter son histoire. Il m'est arrivé à quelques reprises d'affirmer que la littérature n'avait pas à être source de réconfort, qu'elle était en quelque sorte dispensée de l'être et au-dessus de ça. D'accord. Mais il y a des moments où le réconfort est nécessaire. Mon ami et collègue Billy, ancien libraire qui travaille désormais dans le milieu de l'édition, est parti en vacances récemment. Il a plu à boire debout pendant l'entièreté de sa semaine au chalet. Pas une seule petite parcelle de soleil, mais les gens qui aiment lire savent qu'il n'y a rien de mieux qu'un orage ou une petite pluie fine pour entrer dans un livre. Billy avait apporté sa lecture doudoune. L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, de Mathias Malzieux, paru chez Albin Michel, l'histoire d'un couple traversant un deuil périnatal narré par deux chats qui vivent sur une péniche. On dit de ce livre qu'il est un hymne à la vie, un roman consolateur rempli de magie et de poésie. En tout cas, deux petites étoiles s'allument dans les yeux de Billy Bop quand il en parle. Un livre lu récemment a suffi à me convaincre que oui, la littérature peut se faire réconfortante pour moi aussi. Mom de Catherine. Je me suis empressé de l'offrir parce que je veux le faire découvrir, alors je n'ai même plus cette merveille en ma possession. Je vais certainement aller me l'acheter à nouveau, car en plus d'être bouleversant, ce livre est magnifique, sa couverture est une fête de couleurs vives et crémeuses. Je sens que c'est le livre que je vais systématiquement offrir en cadeau à tout le monde au cours des prochains mois. Paru à l'automne 2024, aux éditions Pau Pau, Mom est déjà bardé de prix. Prix Bédélis, Québec, Grand Prix Québec BD, Prix BD du Salon du Livre de Trois-Rivières, liste préliminaire du Prix des libraires du Québec. Je l'ai remarqué à sa sortie, mais je l'avais soigneusement évité à cause de son sujet. Mom raconte la fin de vie d'une jeune mère atteinte d'une maladie dégénérative à travers sa relation avec sa fille. Comment traverser les ténèbres, envisager la perte d'un être cher, sans se perdre complètement? Comment laisser la vie l'emporter malgré la tristesse accablante et l'arrivée de la mort? J'ai perdu mon papa de cette façon-là, moi aussi, il y a 3 ans, et ça fait encore un peu mal. En 6 mois, Pops, qui pétait le feu, s'est éteint. Il m'arrive encore de vouloir lui prêter un livre ou lui faire goûter un vin ou une recette. Tous les hiboux et les hérons me feront toujours penser à mon père. Je suis incapable de lire sur la perte d'un parent. Du moins, je ne l'étais pas avant de tomber sur Mom. L'avoir vécu, c'était déjà trop. Mais le livre de Catherine fait partie d'une catégorie rare, celle des œuvres qui contiennent à la fois le bobo et le baume, comme « Chercher Sam » de Sophie Bienvenue, par exemple. Tiens, je devrais réserver à ces livres une section de ma bibliothèque. Les dessins joyeux, ronds et fantaisistes, presque enfantins de Catherine, servent à cacher la noirceur sans vraiment la cacher. Plus elle s'enfonce dans la maladie, plus la mère rapetisse au point de ressembler à une coccinelle à grandes lunettes, juchée sur une tortue. Sa fille, Touffe, genre de marsupilami jaune duveteux à un chat, Chuchu, avec qui elle parle de ce qu'elle vit, mais qui, comme tous les félins, reste centré sur ses petits plaisirs. Ils vivent dans une maison qui pourrait être celle des Barbes à papa à Boueteville pour ne pas s'éloigner trop du centre de soins, même si Touffe rêve de s'exiler dans la grande ville, à Boréal. Les voitures ont des yeux, les infirmières sont de petites mouches bienveillantes. On lit Mom en riant, en pleurant. Avant même de l'avoir terminé, je voulais déjà le relire. Catherine est au début de sa vie de créatrice. Son précédent livre, Apo, prix Bédélis indépendant 2019, n'est pas passé inaperçu lui non plus. C'est formidable et prometteur pour la suite. Je l'avais d'abord évité, mais j'y suis revenu parce que je voulais posséder l'objet livre. Le regarder me faisait du bien. Le lire m'a apaisé. Quand j'ai perdu Pops, je me sentais si seul, perdu dans un désert de glace. Un jour, on m'a appelé très tôt avant que je me réveille pour me dire que mon père était tombé pendant la nuit. Le piton de l'hypervigilance toujours à « on », je n'ai plus jamais dormi à point fermé depuis. Ça arrive aussi à Touffe, et il y a sa course, ensuite pour atteindre le plus vite possible les marches de l'hôpital. Elle devient alors une géante chaussée de bottes de sept lieues et traverse, elle aussi, complètement épouvantée, éperdument catastrophée, les champs glacés, les tempêtes et tous les paysages. J'arrive au bout de cette chronique et je n'ai même pas parlé de l'humour lumineux de Catherin, une autre de ses qualités d'autrice. Le jury des prix Bédélis, composé de 89 bibliothécaires, libraires, auteurs et professionnels du livre, a déclaré « Le monde de Catherin nous amène à réfléchir sur la perte d'un être cher tout en célébrant la beauté de la vie et de l'amour. » Tour de force, rien de moins. Pour lire une histoire émouvante, livrée avec une douceur infinie, beaucoup d'humanité, et célébrer du même coup les 15 ans de la maison d'édition Pau Pau, faites-vous ce cadeau. Et tant qu'à y être, prenez aussi la Méduse de Boom et les deuxièmes de Svian. Bonne lecture, bonne découverte. C'était Mom, Pops et Billy Bop, un texte de Marie-Hélène Poitras, paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
Le mythe des deux Narcisses. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 8 juin 2025 dans La Presse. Deux Narcisses vivaient dans la même forêt enchantée. Narcisse doré et Narcisse électrique. Longtemps, ils existèrent chacun de leur côté. Narcisse doré donnant dans l'immobilier, transformant les arbres en gratte-ciel, se mirant dans les vitrines de ses buildings. Narcisse électrique donnant dans l'aéronautique, transformant le métal en fusée, se mirant dans les étoiles. Narcisse doré avait beau accumuler faillite et gestes outranciers, il ne cessait de s'adorer, affichant son nom en majuscule sur chacune de ses réalisations. Narcisse électrique voguait de succès en succès, si bien qu'il se sentait partout sur son X. Il se mit à se diversifier, à tel point qu'on ne voyait plus que lui et l'autre Narcisse. Leur renommée était telle que la nymphe Écho tomba amoureuse d'eux, folle amoureuse des deux. Elle répétait tout ce qu'ils disaient, partout où ils allaient, elle allait et leurs voix se multipliaient. Si bien que leurs légendes ne cessèrent de s'amplifier. Tous les mortels du royaume en avaient entendu parler. Un jour, les deux hommes finirent par se croiser au gré de leurs réseaux sociaux. Ils eurent le coup de foudre réciproque tant ils se reconnaissaient l'un dans l'autre. Jamais ils n'auraient cru pouvoir trouver quelqu'un qui s'aimait autant qu'ils s'aimaient. Ça les excitait. Narcisse Doré voulait redevenir président, n'ayant pas assez profité la première fois de tout ce que ça pouvait lui rapporter. Il fallait quand même être gonflé avec tous les crimes dont il était accusé. Les gens allaient-ils se tromper à deux reprises? On pouvait en douter. Narcisse Électrique lui dit « Qu'à cela ne tienne, je vais t'aider. Il n'y a rien que la monnaie ne puisse acheter. » Au palais, ne puisse acheter. Un chasseur passa près de faire du Narcisse Doré un faisan doré. La balle lui frôla le lobe, un peu plus, et il aurait pu dormir sur ses deux oreilles en même temps. Sortant vivant de cet attentat, le visage ensanglanté et le poing levé, il devint encore plus en adoration avec son image, se prenant pour Dieu ou encore mieux. Bien sûr, le béni remporta ses élections. Narcisse Électrique ne le quittait plus d'un pas, tellement que les deux égaux se retrouvaient aussi souvent ensemble dans le bureau ovale que Bill et Monica. L'élu, assis à son pupitre, les longs debout à côté. Ils étaient comme deux larrons en foire, chacun se croyant Jésus, se servant l'un de l'autre, mais se servant surtout à même les fonds publics. L'Électrique en profitant pour donner un choc aux employés fédéraux. La nymphe Écho commença à être refroidie par autant de promiscuité. Ils étaient si épris l'un de l'autre que le reste du monde se sentait de trop. Elle s'employa à répéter, sur leur compte, les pires ragots. Les affaires du milliardaire se mirent à mal aller. Il dut retourner au boulot pour les remonter. Ou est-ce le président qui voulut s'en débarrasser, se sentant, comme on dit, dans leur contrée, « outstagé » Loin des yeux, loin du cœur, mais surtout loin des yeux, loin de leurs reflets unis dans l'eau. Maintenant, chacun se voyait de nouveau en solo. Et ils constatèrent qu'il n'y avait rien de plus beau qu'eux. Surtout pas l'autre des deux. N'ayant plus rien à gagner de leur intense amitié, ils se mirent à se perdre et à s'insulter avec autant de passion qu'ils s'étaient adorés. Doré menaçant de débrancher Électrique, Électrique tentant d'envoyer Doré à la chaise électrique. Lequel des deux assènera à son opposant le coup fatal? Génial serait le devin qui saurait le prédire. Dans les mythes, il y a toujours le bon et le méchant. Caïn et Abel, David et Goliath, le loup et le chaperon rouge, Bobby et J.R., Luke Skywalker et Darth Vader. Et habituellement, c'est le bon qui gagne, mais dans ce cas-ci, quand ce sont deux narcisses finis qui s'opposent, comment deviner la fin de l'histoire? Une chose est certaine, il vaut mieux les avoir séparés que fusionnés. Ensemble, ils devenaient imbattables. Le pouvoir et la richesse de front. Godzilla et King Kong en équipe. Pauvre planète. Eux deux, contre 8 milliards, nous étions en désavantage numérique. L'un des deux, contre 8 milliards, et l'autre des deux, ça devient plus équilibré. Certains pensent que ce coup de théâtre est justement du théâtre. Que c'est une stratégie, qu'il prépare un coup fumant et que nous sommes en train de tomber dans le panneau, encore une fois. Avec eux, tout se peut. Ce serait quand même étonnant, mais nous ne faisons que ça en ce moment, vivre dans l'étonnant. Cela dit, tout porte à croire que deux narcisses devaient, tôt ou tard, mettre fin à leur histoire d'amour pour revenir vers celui qu'ils ne cesseront jamais d'adorer. En premier. Trump et Musk se sont remis à regarder leur reflet dans l'eau. Chacun dans son bout d'étang. La nymphe Écho colportant, grâce au vent, ce qu'ils disent l'un de l'autre. Causera-t-elle la chute de l'un ou de l'autre, ou des deux? Restons à l'écoute. Aucune télé-réalité n'arrive à les accoter. Les frères Narcisse sera la série de l'été, la série de l'année. C'était « Le mythe des deux Narcisses », un texte de Stéphane Laporte paru le 8 juin 2025 dans la presse.
À l'ère de l'IA, comment faire son CV, un texte de Maude Goyer, paru le 17 juin 2025 dans la presse. Il n'y a pas que l'employeur et le candidat qui prennent part à un processus de recrutement. L'intelligence artificielle, IA, est dorénavant le troisième élément impliqué et il peut l'être à la fois du côté du recruteur et du chercheur d'emploi. Utilisée avec parcimonie, l'IA peut avoir de grands avantages. Selon une étude scientifique publiée en septembre 2024 par la maison d'édition Wiley, de plus en plus de candidats utilisent ChatGPT ou un autre robot conversationnel pour concevoir leur curriculum vitae. Toujours selon cette recherche, il semble que cette méthode est bénéfique. Il a été démontré que les chercheurs d'emploi obtiennent plus de succès en consultant une intelligence artificielle générative. Mais attention, disent les experts. L'IA ne connaît pas tout de nous et elle peut commettre des impairs. La révision et la personnalisation sont essentielles. Ce sont des outils d'aide et cela ne remplace pas l'humain. C'est important que l'on reste aux commandes. Il n'y a rien de magique et il faut s'impliquer, dit Marie-Ève Girard, directrice du Centre de services et de formation à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, OCRHA. Le risque d'utiliser l'IA pour bâtir notre CV, que ce soit trop général, trop fade, trop convenu. L'IA peut aussi avoir tendance à embellir les choses, avance Madame Girard. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une entrevue après. Il faut être capable de verbaliser ce qu'il y a dans notre CV. La pire chose pour un recruteur, confirme Xavier Parent-Rochelot, professeur au département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal, c'est un candidat qui maîtrise mal son propre CV. Comme pour toute forme d'IA, il y a une grande vertu à faire les choses soi-même, dit-il. Personnellement, je recommande toujours d'utiliser l'IA générative pour le contenant et non le contenu. Gare à la paresse intellectuelle. Selon Sandrine Théard, présidente fondatrice de l'École du recrutement Les sources humaines, l'IA peut aider à efficacement bonifier le CV d'un candidat en y glissant astucieusement les mots-clés correspondant aux exigences du poste. Une quarantaine de personnes qui travaillent en acquisition de talents m'ont confié que pour une offre de poste ces jours-ci, elles reçoivent 200 CV, illustre-t-elle. C'est donc important que le CV soit adapté au poste auquel on postule, que notre intention soit claire et que les mots soient bien choisis. Madame Théard fait référence, entre autres, à une traduction qui ne serait pas tout à fait juste si elle est réalisée par ChatGPT sans être révisée et corrigée. Ou encore à une rédaction trop collée au français de France. Dans les deux cas, cela peut être perçu par l'employeur comme de la paresse intellectuelle, affirme Madame Théard. La relecture est donc obligatoire. Une lettre de motivation peut toujours être pertinente pour expliquer les écarts qui pourraient exister entre nos compétences et les exigences du poste. Cela peut être une belle valeur ajoutée, ajoute la formatrice en acquisition de talents. Qu'on utilise l'IA ou pas, il ne faut pas perdre de vue l'objectif du CV, indique l'experte, soit afficher notre expérience et montrer notre potentiel en lien avec le poste convoité. Tricherie ou atout? Habile en communication, l'IA générative peut améliorer le CV d'un chercheur d'emploi en l'organisant de façon claire et concise. Le marché de l'emploi étant difficile en ce moment pour les candidats, cela représente un avantage majeur dont il ne faut pas se passer. Un CV mal écrit, difficile à lire, avec une mise en page toute croche, va pénaliser un candidat même si l'expérience correspond, prévient Xavier Parent-Rochelot de HEC Montréal. Si le recruteur se rend compte que le chercheur d'emploi a utilisé ChatGPT, est-ce grave? Certains diront que c'est tricher, et d'autres vont voir cela comme un atout, puisque cela signifie que la personne sait utiliser cet outil, précise Sandrine Théard, qui travaille depuis 30 ans en recrutement. Dans l'avenir, les trois experts s'entendent pour dire que ce n'est que le début de l'intervention de l'IA dans le recrutement. Du côté des recruteurs, les avancées sont rapides et spectaculaires. L'IA peut être automatisée pour passer des entrevues complètes, comme c'est le cas en Chine et aux États-Unis, mais ce n'est pas tellement le cas au Québec en ce moment, souligne M. Parent-Rochelot. Elle peut également aider à filtrer les CV reçus en se basant sur le contenu de celui-ci, mais aussi en croisant ces données avec celles trouvées sur le web et sur les réseaux sociaux du candidat. L'IA peut donc faire une prédiction quant au meilleur candidat, dit M. Parent-Rochelot. Selon les attentes de l'employeur, elle peut s'avancer sur lequel des candidats sera le plus performant ou plus propice à rester longtemps au sein de l'entreprise. La plus grande promesse de l'IA du côté des candidats est celle de postuler de façon massive à des postes. Sur certaines plateformes propulsées par l'IA, en quelques clics seulement, un chercheur d'emploi peut ainsi soumettre sa candidature à des centaines, voire des milliers d'emplois. Efficace? Oui et non, admet le professeur Xavier Parent-Rochelot. On peut se retrouver dans ce que j'appelle un cercle de virtualité où l'IA utilisée par l'entreprise va analyser l'IA utilisée par le candidat. On veut éviter cela parce qu'au bout du compte, cela fait perdre du temps à tout le monde. C'était « À l'ère de l'IA, comment faire son CV », un texte de Maude Goyer, paru le 17 juin 2025 dans la presse.